je m'appelle Jonathan Goupil-Levray, donc je suis postdoctorant à l'ENS de Lyon. Et donc je vais vous présenter mes thématiques de recherche qui portent sur le lien entre inégalité et fiscalité. Donc bien sûr, c'est une thématique importante pour les chercheurs, mais également pour les décideurs publics et les citoyens, parce que, en fait, derrière la notion d'inégalité et de fiscalité, se cristallisent tous les débats autour de la question de la méritocratie, de l'égalité des chances et de la justice sociale, qui sont au cœur de notre modèle social français. Et donc, pour chaque citoyen, nous avons tous une opinion personnelle sur la légitimité ou le bien fondé des différentes sources d'inégalité, également une idée de la redistribution optimale que nous aimerions que nos gouvernements mettent en place. Et vous allez voir, dans mes travaux, j'ai fait complètement abstraction de ces questions normatives pour me concentrer vraiment sur l'analyse des phénomènes observés. Donc, dans mes travaux, je me concentre vraiment sur une analyse positive à travers trois questions. Donc, la première question, c'est comment ont évolué les inégalités de revenus et de patrimoine sur longue période. Et ensuite, une fois qu'on a étudié la dynamique des inégalités, il peut être important de comprendre quel est le rôle que peut jouer le gouvernement à travers les politiques publiques dans la réduction des inégalités. Et enfin, la troisième question que je me pose s'intéresse à l'arbitrage qu'il peut exister entre d'un côté l'efficacité et de l'autre l'équité. Donc pour des raisons d'équité, par exemple, un gouvernement peut mettre en place un système d'imposition progressif, mais la mise en place d'un tel impôt peut générer des coûts d'efficience en modifiant les comportements économiques des agents. On peut penser par exemple à une modification des comportements d'offre de travail, mais également d'épargne ou d'investissement. Et donc, il est important d'essayer de mesurer ces coûts d'efficience à travers l'estimation de réponses comportementales. Plus les réponses comportementales sont importantes, et moins les gouvernements sont à même de redistribuer les richesses. Donc, je ne vais pas avoir le temps, durant ces 10 minutes, de vous présenter l'intégralité de mes travaux. Donc, j'ai choisi de vous présenter principalement mes travaux sur la dynamique des inégalités de revenus et de patrimoine, ainsi que l'impact que peut avoir la fiscalité sur les inégalités. Et donc, je vais commencer par vous présenter ce premier graphique qui permet d'illustrer la dynamique des inégalités de patrimoine en France depuis 1800. Et donc, sur ce graphique, vous pouvez voir que la distribution des patrimoines a été divisée en trois groupes. Donc, en bleu ici, on peut voir les 10% des individus les plus fortunés, les classes aisées. Ensuite, en vert, en bas, on peut voir les classes défavorisées, les 50% des individus les plus pauvres. Et enfin, la courbe rouge ici correspond aux 40% du milieu qu'on peut appeler la classe moyenne. Et donc, si on se concentre simplement sur le 19e siècle, on peut voir qu'au 19e siècle, les inégalités étaient relativement stables. Et on peut voir également que la distribution du patrimoine était extrêmement polarisée entre d'un côté les 10% des gens les plus fortunés qui possédaient 80% du patrimoine total, et de l'autre côté, les 90% restants qui ne possédaient que 20% du patrimoine. Et donc à cette époque-là, on voit qu'il n'y avait pas vraiment de classe moyenne, avec vraiment deux groupes, les 10% les plus fortunés d'un côté, et les 90% les plus pauvres de l'autre. Et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'à partir de 1914, on observe un déclin extrêmement important des inégalités, qui va se poursuivre de 1914 jusqu'en 1984. Et donc ce fort déclin des inégalités, en fait, ne découle pas d'une loi naturelle, mais plutôt d'un ensemble de phénomènes économiques qui vont se produire pile pendant cette période et qui correspond en fait aux deux guerres mondiales, à la mise en place d'impôts progressifs sur les héritages et les revenus, et également des périodes d'inflation et de dépression importantes qui vont affecter principalement les patrimoines les plus importants. Et donc c'est pour ça, qu'on observe en fait un fort déclin des inégalités qui se poursuit jusqu'en 1984. Et cette période du début des années 80 n'est pas anodine parce qu'elle correspond en fait au développement des marchés financiers. Et à partir de 1984, on observe une augmentation faible mais continue de la part des 10% des plus fortunés. Et en fait, dans notre travail que j'ai mené avec Thomas Piketty et Bertrand Garanti, nous montrons que ce sont les individus les plus fortunés qui ont principalement bénéficié du développement des marchés financiers. Maintenant, si on se concentre sur la dynamique des inégalités de revenus, on peut voir sur ce graphique à nouveau la distribution des revenus qui est divisée en trois groupes, avec à nouveau les 10% les plus riches en rouge, les 50% les plus pauvres en orange, et enfin les 40% du milieu en bleu. Et à nouveau, on remarque que pendant la première moitié du XXe siècle, on observe une décroissance des inégalités de revenus assez importante, avec la part des 10% des individus les plus riches qui passe de 50% au début du XXe siècle à 30-35% à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à nouveau, en fait, ce fort déclin des inégalités de revenus tire ses sources des mêmes phénomènes qui peuvent expliquer le déclin des inégalités de patrimoine, à savoir les guerres mondiales, des phénomènes d'inflation et de dépression, et également la mise en place d'impôts progressifs. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on voit que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on observe une augmentation, une dynamique des inégalités de revenus beaucoup plus chaotique que pour les inégalités de patrimoine. Et on peut diviser en fait la seconde partie du XXe siècle en trois sous-catégories. Donc vous pouvez voir ici, de 1945 jusqu'à 1968, on observe une augmentation des inégalités de revenus. Et en fait, c'est dû au fait qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays est à reconstruire. Et donc, on a les marges des entreprises qui se reconstituent au fur et à mesure, et on a aussi la hiérarchie des salaires qui se reconstitue, ce qui explique en fait une augmentation des revenus allant aux 10% des gens les plus riches. Et en fait, ce mouvement d'augmentation des inégalités va prendre fin exactement en 68, et donc on a l'habitude de voir mai 68 comme un mouvement étudiant, mais c'est également un événement de contestation sociale extrêmement importante, en particulier chez les ouvriers, et qui va marquer en fait un changement politique avec une augmentation très forte du SMIC en 68, qui à l'époque s'appelait le SMIC, le revenu minimum, et une revalorisation plus importante de ce revenu minimum de 1968 jusqu'au début des années 80. Et donc cette période de 1945 à 1968 va être une période de déclin des inégalités qui va principalement bénéficier aux 50% les plus pauvres, c'est ce qu'on voit ici, grâce à la revalorisation du revenu minimum. Et enfin, on observe depuis les années 80 une dynamique de réaugmentation des inégalités, puisque le début des années 80 marque le tournant ou l'apparition de la rigueur, et c'est la fin des fortes augmentations du salaire minimum, et également un mouvement d'augmentation très forte de la part des revenus du capital dans l'économie, ce qui va bénéficier principalement aux individus les plus riches. Et plus on monte dans la distribution des revenus, et plus le taux de croissance de ces populations augmente. Donc il faut imaginer que si je vous montrais le même graphique pour les 1% des gens les plus riches ou le 0,1% des gens les plus riches, l'augmentation sera encore plus importante. Donc vous pouvez voir maintenant sur ce graphique la part des 1%, cette fois pour le capital, pour les revenus du capital en vert ici, le patrimoine en bleu là, le revenu total en orange, et enfin les revenus du travail en vert. Et ce graphique permet de voir que vraiment la forte diminution des inégalités de revenus et du patrimoine durant la première moitié du XXe siècle est vraiment due à un phénomène qui a porté sur l'effondrement des revenus du capital et des patrimoines. Et enfin, on voit que depuis le début des années 80, on observe une augmentation forte des inégalités de patrimoine et de la concentration des revenus du capital. Donc, je vous ai présenté jusqu'à maintenant la dynamique des inégalités de revenus avant impôts. Et donc, il peut être intéressant maintenant de savoir comment l'État, à travers la mise en place d'impôts et de prestations sociales, a pu modifier les inégalités. Et c'est d'autant plus important que tout au long du XXe siècle, en fait, la part des prélèvements obligatoires dans le revenu national a beaucoup augmenté, puisqu'elle était de 5 à 10% au début du XXe siècle, et elle est maintenant de l'ordre de 50% en France. Alors malheureusement, c'est encore un travail en cours, et donc dans notre travail, nous avons cherché à mesurer l'impact de la fiscalité sur la réduction des inégalités, mais nous, avec Thomas Piketty, Bertrand Garvinty, Malka Guillot et Antoine Bozio, pour le moment, c'est un travail en cours, donc nous avons été en mesure seulement de couvrir la période qui va de 1990 à 2020. Et donc bien sûr, l'objectif est de poursuivre ce travail afin d'étudier l'impact des politiques publiques sur les inégalités tout au long du XXe siècle. Et donc pour le moment, donc, je vais vous présenter les résultats provisoires, et vous pouvez voir en rouge, ici, la part des revenus allant aux 10% des plus riches lorsqu'on considère seulement le revenu avant impôt, et en bleu ici la part des revenus allant aux 50% les plus pauvres, toujours avant impôt. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que de 1990 à 2020, donc la période de 2018 à 2020 est bien sûr des prévisions, on peut voir que les inégalités ont augmenté et l'augmentation des revenus allant aux 10% des plus riches s'est faite au détriment de la part des revenus allant aux 50% des plus pauvres. Donc ça, c'était avant impôt. Donc maintenant, lorsqu'on considère les inégalités en termes de revenus disponibles, c'est-à-dire le revenu avant impôt moins les impôts plus les prestations sociales monétaires, c'est-à-dire les allocations logement, les minima sociaux et les allocations familiales, on peut voir que le système socio-fiscal permet de réduire les inégalités, puisque la part allant aux 10% les plus riches diminue lorsqu'on passe du revenu avant impôt au revenu disponible, et de manière similaire, la part de revenus allant aux 50% les plus pauvres augmente lorsqu'on passe du revenu avant impôt au revenu disponible. Et ensuite, si on se concentre sur la dynamique des inégalités, on peut voir qu'avant impôt, les inégalités augmentaient, mais par contre, grâce à l'impact des impôts et des prestations sociales, les inégalités sont restées stables en France de 1990 à 2020. Donc le système fiscal, les prélèvements obligatoires et les prestations sociales ont permis d'enrayer l'augmentation des inégalités qui étaient à l'œuvre avant impôt. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour cette période récente. Mais par contre, nous avons ensuite cherché à comparer la dynamique des inégalités en France et aux États-Unis. Et ce qui nous a surpris, c'est que nous trouvons que le système socio-fiscal français diminue les inégalités de manière moins importante qu'aux États-Unis. C'est très léger, mais c'est un fait qui demeure. Le système socio-fiscal français, malgré ce qu'on peut en penser, est moins redistributif que le système américain. Et en fait, si les inégalités de revenus aux États-Unis ont augmenté bien plus fortement aux États-Unis qu'en France, ce n'est pas forcément parce que le système socio-fiscal était moins progressif, mais plutôt parce qu'il existe un ensemble de facteurs qui jouent directement sur les inégalités de revenus avant impôt. Et par exemple, on peut penser au système éducatif ou au système de santé, qui peut être moins inégalitaire en France qu'aux États-Unis, et qui peut donc expliquer des différences importantes entre la France et les États-Unis en termes de revenus avant impôt. Voilà, je vous remercie.